VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 11 mars 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Tristesse en Côte d'Ivoire au lendemain de la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer. Après de violentes manifestations au Sénégal, le président Macky Sall a décrété un deuil national ce jeudi. L'opposition va marquer un deuil demain. En Mauritanie, le procureur de Nouakchott ordonne la présentation à un juge de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz et d'autres personnalités pour corruption. Discours du président américain Joe Biden sur son plan de soutien économique et la vaccination anti-Covid. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. La Côte d'Ivoire s'est réveillée ce matin sonnée par la mort en Allemagne des suites d'un cancer du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé hier à l'âge de 56 ans. Il était apprécié par tous les camps politiques dans un pays divisé. John Linden nous en dit plus.
La Côte d'Ivoire en deuil, la nation pleure, Ouattara pleure un autre fils. J'ai dit, tous les titres de la presse ivoirienne étaient consacrés à la mort d'Ahmed Bakayoko. En annonçant ce décès hier, le président Alassane Ouattara a dit avoir perdu un fils et un proche collaborateur. Mais la mort d'Ahmed Bakayoko n'a pas été une réelle surprise. Il a été évacué à Paris le 18 février pour y être hospitalisé, puis transféré en Allemagne. Il est mort d'un cancer selon la présidence ivoirienne. Grand amateur de football, très à l'aise dans tous les milieux politiques, il rencontrait régulièrement les leaders religieux, les jeunes et les acteurs de la vie associative pour les exhorter à s'écouter, à se respecter et à ne pas recourir à la violence. Les dates du retour de la dépouille d'Ahmed Bakayoko et ses funérailles n'ont pas encore été annoncés.
Le président sénégalais Macky Sall a décrété un deuil national pour la journée après les manifestations qui ont fait au moins 5 morts. L'opposition annonce aussi une journée de deuil pour demain vendredi. Le point avec Abdourahmane Dia.
Lors du deuil national de jeudi, les drapeaux seront en berne en ce jour de communion, de recueillement et de prière pour nos chers disparus, a indiqué le gouvernement. Le chef de l'État sénégalais a aussi annoncé la fin de l'état de catastrophe sanitaire institué en raison du Covid-19. L'état de catastrophe sanitaire a été à l'origine de restrictions dont un couvre-feu nocturne dans les régions de Dakar et Thiès que le gouvernement a décidé d'alléger après les violentes émeutes de la semaine dernière. La journée de deuil officielle de jeudi se tient un jour avant celle annoncée par le mouvement de défense de la démocratie pour le vendredi. Le M2D a aussi appelé à des manifestations pacifiques à Dakar et dans tout le pays samedi pour réclamer la libération de plusieurs prisonniers qu'il qualifie de politiques. Le Sénégal a été le théâtre la semaine passée de scènes de pillage et de saccage après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, pressenti comme un des principaux candidats à la présidentielle de 2024.
Au Nigeria, au moins 31 personnes ont été tuées dans 3 attaques mardi et mercredi dans le nord-ouest et le centre du pays, ont indiqué des habitants. Mercredi, des hommes en moto ont envahi le village de Damaga dans le district de Maradoun dans l'état de Zamfara. Ils ont également volé du bétail selon les villageois. En Mauritanie, le procureur de Nouakchott a ordonné la présentation à un juge de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz et d'une dizaine de hautes personnalités en demandant leur inculpation pour corruption. Le procureur Amédou Ould Abdelahi a demandé le placement sous contrôle judiciaire de M. Aziz, un de ses gendres, 2 anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires. Ils sont en cours de présentation au juge qui doit décider s'il suit les réquisitions du procureur pour les inculper. Monsieur Ould Abdelaziz crie au règlement de compte. Son successeur a constamment invoqué l'indépendance de la justice. Hier, des partisans de l'ancien président mauritanien ont manifesté à Nouakchott. La Centrafrique organise dimanche le second tour des élections législatives et le pays retient son souffle. Il fait face depuis décembre 2020 à une offensive rebelle contre le régime du président Faustin Archange Touadéra. Le point avec Nani Talani.
140 sièges de députés sont à pourvoir. Le mouvement Cœur Uni du président Faustin Touadéra devrait en toute logique conserver la majorité face à une opposition divisée et dont une frange est accusée de complaisance à l'égard d'une rébellion impopulaire. Le principal enjeu réside dans le sort de plusieurs poids lourds du camp Touadéra qui n'ont pu être élus dans des circonscriptions où le scrutin a été empêché ou annulé. Mais pour que la nouvelle Assemblée nationale soit légalement constituée, la Cour constitutionnelle a imposé qu'au moins 71 députés soient élus avant le 2 mai. Or, seuls 22 l'ont été au premier tour et 49 circonscriptions sont en ballotage pour le second. Dans les 69 autres, le vote a été empêché ou annulé pour des irrégularités par la Cour constitutionnelle. Un premier tour sera réorganisé dimanche, puis un éventuel second ultérieurement. Lors de la présidentielle, le 27 décembre dernier, de nombreux bureaux de vote ont été fermés à cause de l'insécurité.
Les autorités de la région éthiopienne de l'Amhara ont rejeté jeudi les accusations de nettoyage ethnique menées par leurs troupes au Tigré. Terme utilisé publiquement la veille pour la première fois par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. En début de semaine, des responsables de l'administration intérimaire mise en place par le gouvernement éthiopien au Tigré ont accusé les forces de l'Amhara voisine d'avoir expulsé des milliers de Tigréens de terres de l'ouest du Tigré revendiquées par l'ethnie Amhara. En Tanzanie, le ministre des Affaires constitutionnelles et juridiques a menacé de poursuites quiconque relaie les rumeurs ineptes concernant la santé du président John Magufuli, sans toutefois donner de précisions sur l'endroit où le chef de l'État se trouve. Plusieurs membres de l'opposition ont appelé les autorités à donner des nouvelles du chef de l'État qui n'est plus apparu en public depuis le 27 février. Les rumeurs sur une possible contamination à la COVID-19 se sont depuis multipliées. En Égypte, au moins 20 personnes ont péri et 24 ont été blessées ce jeudi dans l'incendie d'une usine textile dans la banlieue à l'est de la capitale égyptienne, le Caire, ont indiqué des sources sécuritaires et médicales. 12 camions de pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'immense feu dont la cause n'était pas établie dans l'immédiat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Discours du président américain Joe Biden ce jeudi pour défendre son plan de soutien à l'économie et souligner les progrès dans la vaccination anti-Covid. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Au 50e jour de son mandat, il fera sa première allocution solennelle en prime time à 20h heure de Washington, 1h GMT vendredi. Je vais parler de toutes les épreuves de l'année écoulée, mais, et c'est le plus important, je vais aussi parler de ce qui viendra après, a-t-il expliqué. L'un de ses sujets, c'est son gigantesque plan de relance de 1900 milliards de dollars. Louant une victoire historique pour les Américains, Joe Biden a affiché sa volonté d'aller défendre ce plan qu'il signera vendredi à travers les États-Unis. Il doit d'ailleurs se rendre dès mardi en Pennsylvanie, première étape d'une série de déplacements. Le locataire de la Maison-Blanche tentera aussi de rassurer à propos du Covid-19 qui a fait près de 530 000 morts aux États-Unis. Il y a de vraies raisons d'espérer, je vous le promets, on voit la lumière au bout du tunnel, a-t-il martelé. Pour y parvenir, les États-Unis ont déjà passé des commandes pour recevoir d'ici fin mai assez de doses pour vacciner l'ensemble des adultes américains.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annulé sa première visite officielle aux Émirats arabes unis en raison d'un différend avec la Jordanie concernant le survol de son espace aérien. Monsieur Netanyahou devait rencontrer le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui dirige de facto les Émirats. Ce pays du Golfe va développer des systèmes anti-drones avec Israël, a annoncé Edge, le constructeur militaire des Émirats Arabes Unis, 5 mois après la normalisation des relations avec l'État hébreu. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti le Conseil de sécurité qu'à défaut d'une action immédiate, des millions de personnes risquent la famine et la mort dans le monde. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibourg.
Au Togo, le trafic global du port de Lomé a connu une hausse d'environ 12% en 2020 malgré la pandémie du coronavirus. Les importations enregistrées sur la plateforme portuaire ont connu une hausse de près de 15% et les exportations une hausse de 3%. Selon Togo First, la situation pandémique aura eu paradoxalement pour effet de positionner Lomé, seul port en eau profonde de la zone, comme plateforme de repli important pour les grands bâtiments maritimes. Au Cameroun, 37 entreprises minières artisanales viennent de signer des conventions avec le Programme des Nations Unies pour le Développement en vue de l'obtention des financements. Ces bénéficiaires, sélectionnés au terme d'un appel d'offres, opèrent dans la transformation de l'argile, la taille des pierres, l'extraction du sable et la production du gravier et recevront des équipements d'une valeur de plus de 55 millions de francs CFA afin d'améliorer leur production. Le Maroc, premier producteur mondial de haschich, se prépare à légaliser l'usage thérapeutique du cannabis avec un cadre juridique destiné à permettre à l'État de valoriser une culture lucrative actuellement aux mains des trafiquants. Le but est de reconvertir les cultures illicites destructrices de l'environnement en activités légales, durables et génératrices de valeurs et d'emplois selon le projet de loi.
À présent, les sports présentés par Nani Talani.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. La Zambie vole au secours de la CAF et propose d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans suite à l'annulation de ce tournoi qui devait avoir lieu au Maroc du 13 au 31 mars. Lundi dernier, le comité d'urgence de la CAF l'a annulé pour des raisons sanitaires alors que certaines équipes comme l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie et le Sénégal étaient déjà arrivées au Maroc. La Zambie pense être en mesure d'accueillir la compétition après avoir organisé avec succès le tournoi des moins de 20 ans de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, suivi du tournoi des moins de 20 ans du Conseil des associations de football d'Afrique australe, COSAFA, en 2019. Les 12 équipes qualifiées pour jouer cette compétition sont l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Mali, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et la Zambie. Le but du mois de février de Liverpool a annoncé le club. C'est la 6e fois que Salah remporte ce prix individuel de manière consécutive. L'attaquant a été un joueur hors pair des Reds cette saison après avoir marqué 21 buts et fourni 4 passes décisives en 37 apparitions. Il a aidé les hommes de Klopp à remporter la Ligue des Champions et les titres de Premier League. L'ailier a marqué plus de 140 buts dans toutes les compétitions et a remporté plusieurs prix individuels pour ses efforts. On s'attend maintenant à ce que l'ancienne star de Chelsea, Mohamed Salah Gadi, poursuive ses performances impressionnantes et aide Liverpool à mettre fin à sa défaite en affrontant Wolverhampton lors de leur prochain match de championnat le 15 mars. Un autre attaquant, cette fois-ci du PSG, Kylian Mbappé, qui a marqué l'unique but de son club lors des 8e de finale retour en Ligue des Champions hier, a aussi marqué son 6e but en Ligue cette saison. À 22 ans et 80 jours, Kylian Mbappé, qui est aussi le champion du monde avec l'équipe de France, est ainsi devenu le plus jeune joueur à inscrire 25 buts en C1 et détrône Lionel Messi, qui avait réussi cette performance à 22 ans et 280 jours, selon le statisticien Opta. Terminons par le Comité olympique des États-Unis qui a dit s'attendre à ce que les sportifs américains devant participer aux Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août soient vaccinés bien avant contre le COVID-19 compte tenu de l'accélération de la campagne de vaccination dans le pays. Le comité a déclaré que la plupart des sportifs seraient probablement vaccinés dans le cadre des programmes menés au niveau local, mais elle n'a pas exclu la possibilité de mettre en place un centre de vaccination de masse où les sportifs seraient rassemblés dans un même lieu précis. Le conseil assure n'avoir pas constaté une quelconque réticence de la part des sportifs à se rendre à Tokyo.
Merci beaucoup Nanit pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'administration américaine a classé comme groupe terroriste les rebelles ADF, des islamistes d'origine ougandaise opérant en République démocratique du Congo. Le département d'État reconnaît l'allégeance de ces rebelles au groupe État islamique, les désigne désormais comme groupe État islamique RDC et promet de les combattre avec énergie. Eddy Issango a joint le ministre des Droits humains congolais, André Litté.
Tout naturellement, je salue d'abord cette désignation salvatrice. Moi, je veux parler d'une désignation salvatrice, c'est que à partir du moment où une superpuissance comme celle des États-Unis reconnaissent que les ADF constituent une menace globale, donc réputée terroriste, autant que le gouvernement congolais depuis des listes, ça ne peut qu'être une bonne chose. Et par la même occasion, nous souhaitons, sinon nous pensons, que toutes les autres nations civilisées coopéreront avec l'État congolais, aussi bien au niveau sous-régional, régional qu'international, à l'effet d'apporter une réponse globale. Chaque fois que le monde est confronté à ce genre de phénomène, on a toujours vu une coopération internationale inédite se mettre ensemble pour venir à bout au phénomène terroriste à quelque partie du monde que ce soit ou que ce soit à travers le monde, si je puis ainsi m'exprimer.
Les gens sont tués et décapités tous les jours en Ituri et à Beni. Est-ce que désigner les ADF comme groupe terroriste va changer quelque chose?
Non, déjà, en fait, vous conviendrez avec moi, cher Issango, ça constitue une sorte de modus vivendi. Au moins, sur cette question-là, nous pourrions désormais commencer à parler le même langage avec tous nos partenaires à travers le monde. Vous savez, il y a eu des résolutions du Conseil de sécurité qui demandent à tous les États membres des Nations Unies à coopérer avec des États victimes au terrorisme. Et malheureusement, depuis des listes, nous, la RDC, faut-il les rappeler, nous n'avons jamais bénéficié d'une telle coopération, sinon d'une telle solidarité internationale. Alors, maintenant que les États-Unis, ce n'est pas n'importe quelle entité étatique, les reconnaissent, je suis convaincu que d'autres vont suivre et par le fait que nous pourrions, avec l'aide de Dieu, arriver à venir à bout à cette menace terroriste dont les Congolais et cette partie du pays n'ont que fait. Je crois, en toute modestie, qu'il y a lieu d'envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme.
La MONUSCO est sur place et il y a parfois des opérations conjointes avec les armées de la région ou de la sous-région. Mais vous parlez des solidarités, mais qu'est-ce qui va changer sur le terrain dans la lutte contre ces gens?
Non, vous permettez quand même que je ne sois pas qualifié, ou que vous remarquiez que je dise que je ne suis pas qualifié à parler de la stratégie qu'il faille maintenant en réponse à cette réalité qui commence à être reconnue par-delà nos frontières comme terroriste ou comme une menace globale ou menace mondiale. De ce point de vue, il faut avoir votre main à la patience. Le fait qu'on se prononce sur la question aujourd'hui, vous en doutez bien, moi je suis là pour représenter le gouvernement en ce qui concerne la dignité de la personne humaine au sens large. Et à Beni, ce qu'on vit là-bas, à Ituri, et dans certaines parties du pays, notamment à l'Est, et de façon générale, c'est tout simplement des phénomènes qui désacralisent l'essence même de la personnalité humaine.
André Litté, ministre des Droits humains congolais, joint à Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Encore de nombreuses réactions suite au décès mercredi du Premier ministre ivoirien des suites d'un cancer en Allemagne. Hospitalisé depuis le début du mois à l'hôpital américain de Paris, Ahmed Bakayoko avait été transféré dans un état grave dans une clinique de Fribourg en Allemagne le 6 mars. Il est mort hier à l'âge de 56 ans. Pour des réactions, notre correspondante Aïcha Diarra a tendu son micro à des Ivoiriens à Abidjan.
Sincèrement, vraiment, tu t'es passé. Je crois. Actuellement, même oui, mais je ne crois pas.
Vraiment, ça m'a choqué. Depuis hier, quand il a appris, ça n'est pas tout bon. Ça m'a touché même.
Et là, je n'ai pas de mots à dire. Comme on a l'habitude de dire, les plus grandes douleurs sont Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand froid dans le dos avec cette triste nouvelle. Parce que le premier ministre Ahmed Bakayoko était l'incarnation de la jeunesse. En lui, toute sa jeunesse se reconnaissait.
Bon, franchement, dit la mort d'Ahmed Bakayoko nous a profondément blessés. On ne s'attendait pas à ça. Il est vite parti pour la population.
Quand tu penses à tout le travail qu'il a fait pour nous, pour le pays, pour la nation, vraiment, en tout cas, on a les larmes aux yeux et son âme repose en paix.
La mort du premier ministre m'a vraiment choqué parce que c'était un homme généreux, bon, qui a rendu la population d'Abobo très heureux. On est vraiment triste.
On est très triste ce soir, hein, vraiment, parce que la Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme. Un grand leader, un grand bâtisseur, un grand réunisseur. D'abord, à Boaké ici, les jeunes de Boaké commençaient à l'aimer déjà.
Ça m'a secoué un peu. Je n'ai même pas mangé hier de nuit. Tellement qu'ils étaient découragés. Mon signal est quoi?
Avec sa personnalité et tout ce qu'il a fait pour ce beau pays, que ce soit dans la crise post-électorale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour qu'il s'en aille avec toutes ses valeurs, vraiment j'ai le cœur meurtri.
Il a été toujours humble, avec l'oreille, écouteur, pour pouvoir aider beaucoup de démunis dans le silence.
Mais s'il est parti, mettons tout dans la main de Dieu et n'accusons personne. Si Dieu pourra faire le palais de quiconque. Mais ce qui est plus important, que sa famille soit forte, mais j'ai le cœur très 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 meurtri. Parce que je me dis que c'était l'un des icônes de la jeunesse qu'on pourrait mieux garder pour mieux sauvegarder la réconciliation nationale.
Moi, vraiment, dès quand j'ai pris les nouvelles, à 18 ans, il a coulé l'âme. Après, ado, c'est lui, moi, je voyais dans le pays-là. Il était aimé. Et puis, c'est un gars aussi, il connaît son travail très bien. Il ne parle pas en violence, il sait comprendre les gens. Donc, depuis qu'il a pris les fonctions, c'est vrai, moi, il n'a pas eu problème dans Côte d'Ivoire. Bon, il ne voit pas problème aussi dans Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui, les jeunes, même, en s'attendent très bien. Et lui, il a fait beaucoup de faveurs.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, le président Macky Sall a décrété ce jeudi journée de deuil national en la mémoire des morts lors des manifestations suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Des milliers de jeunes étaient en première ligne de ces manifestations. Disant comprendre la frustration de ces derniers, le chef de l'État a décidé d'une réorientation budgétaire de 350 milliards sur 3 ans pour le financement des jeunes. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Toujours dans une logique d'apaisement, le président Macky Sall continue de poser des actes visant à montrer à la population qu'il comprend leur frustration, notamment celle relative au chômage et à la pauvreté. L'enveloppe de 350 milliards de financement sur 3 ans entre dans ce cadre. Une initiative appréciée par Abou, jeune Sénégalais au chômage.
J'ai entendu dire que le président de la République va décaisser 350 milliards de francs CFA pour les jeunes. Si vraiment il respecte son engagement, c'est une bonne initiative et elle vient honneur. Seulement, il nous a habitués à des promesses non tenues. Il faut que les structures et les ministères chargés de piloter ce projet jouent la carte de la transparence. C'est tout ce que nous demandons.
L'intensité des manifestations avec la présence massive des jeunes démontre que notre jeunesse a besoin d'être épaulée. C'est du moins l'avis de Moussa Diène, apprenti mécanicien.
Les manifestations sont un véritable indicateur. Les jeunes étaient au devant de la scène et cela démontre que la majorité d'entre eux sont au chômage et vivent dans la précarité. La preuve, ils volaient de la nourriture dans les supermarchés. Cette jeunesse mérite d'être encadrée. Quand on est jeune, laissé à soi-même, sans emploi, c'est une brèche pour verser dans la dérive et le banditisme.
Selon le président Macky Sall, ces ressources publiques seront réparties comme suit. 150 milliards pour l'année 2021, 100 milliards pour 2022 et 100 autres milliards pour 2023. Un projet ambitieux qui peut être vecteur de stabilité sociale selon Seydina Omar Sey, docteur en économie.
Il faudra juste savoir que l'emploi des jeunes est aussi un enjeu de sécurité nationale. Parce que ça nous permet d'aller vers une société plus solidaire. Redonner confiance aux jeunes, c'est d'abord être capable vraiment de réduire de manière significative le chômage chronique des jeunes sénégalais.
Pour régler l'épineux problème du chômage des jeunes, le président Macky Sall devra veiller à la création d'institutions fortes dédiées à l'entrepreneuriat, mais aussi convoquer des états généraux de l'emploi. C'est le point de vue du docteur Seydina Ousmane Sey, enseignant-chercheur.
Donc en termes de solutions d'urgence, si vous voulez, pour une politique de l'emploi plus efficace, il faut, à de pareilles situations, faire une convocation des états généraux de l'emploi, afin que les propositions émanent de cette même jeunesse. Mais surtout et fondamentalement, aller également vers ce renouvellement des générations. On ne peut pas compter, depuis les indépendances en maintenant, on ne donne pas l'opportunité, la chance aux jeunes. Essayons à ce que des jeunes, des intellectuels, et il y en a dans ce pays, des gens qui sont très doués stratégiquement, ils vont donner des pistes de solutions pour les sorties de crise.
En plus des 350 milliards de financement, le président Macky Sall demande au gouvernement d'accélérer la réalisation des 45 centres départementaux de formation professionnelle et de 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Le chef de l'État a aussi annoncé qu'il recevra des représentants d'organisations de jeunes et de mouvements de jeunesse en vue de la tenue du premier Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes qui aura lieu au plus tard le 10 avril 2021. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. La démocratie sénégalaise mise à l'épreuve. L'arrestation du député Ousmane Sonko a plongé le pays dans les pires violences de ces dernières années. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts matériels ont été notés. L'opposant a été inculpé pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Ses partisans dénoncent un complot visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Ils demandent aussi au président Macky Sall de dire clairement qu'il ne briguera pas en troisième mandat. Nous discuterons de la situation politique au Sénégal avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va rencontrer la semaine prochaine des diplomates chinois de haut rang pour discuter de plusieurs sujets qui préoccupent les États-Unis. Ce sera la première rencontre officielle de responsables de l'administration Biden avec des hauts cadres chinois. Les contentieux sont nombreux. La correspondante de La Voix de l'Amérique au département d'État, Cindy Sein, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken a présenté mercredi devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre de représentants les principales priorités de l'administration Biden en matière de politique étrangère. Il a annoncé qu'il va rencontrer pour la première fois des hauts diplomates chinois la semaine prochaine en Alaska au retour d'un voyage au Japon et en Corée du Sud. Cela a bien suscité un certain nombre de questions de la part des législateurs. Monsieur Blinken a tenté de les rassurer, disant qu'il va soulever une foule de préoccupations américaines et que pour le moment, il s'agissait d'une réunion formelle et ponctuelle.
À ce stade, il n'y a aucune intention pour une série de discussions suivies. Ces engagements, s'ils doivent suivre, doivent vraiment être basés sur la proposition que nous constatons les progrès et résultats tangibles sur les questions qui nous préoccupent avec la Chine.
Il a convenu, avec un certain nombre de législateurs de deux partis, que la répression par la Chine des Ouïghours musulmans et d'autres minorités dans la région du Xinjiang équivaut à un génocide. Il a appelé Pékin à donner accès à la communauté internationale et aux Nations Unies. Anthony Blinken, secrétaire d'État.
If they have nothing to hide,
s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils nous le montrent, qu'ils le montrent au monde.
So we'll be calling for that.
Plusieurs législateurs républicains ont posé des questions sur les migrants qui tentaient de traverser la frontière sud des États-Unis avec le Mexique et pourquoi l'administration Biden a annulé les accords d'asile signés par l'administration Trump avec des pays d'Amérique centrale. Michael McCaul, représentant républicain.
We've seen a massive surge of migrants crossing.
Nous avons vu un afflux massif de migrants traverser et provoquer une crise à notre frontière sud. Pourquoi le président a-t-il annulé ces accords soutenus par nos voisins du sud?
Monsieur Blinken n'a pas répondu directement à cette question, mais a déclaré que le président Joe Biden était déterminé à ce que les États-Unis aient une frontière sûre, ordonnée et humaine avec le Mexique. Il a également été interrogé sur la crise humanitaire dans la région du Tigré, en Éthiopie, et a fermement condamné ce qu'il a appelé des actes de nettoyage ethnique dans cette région.
Le Premier ministre Abiy Ahmed est un dirigeant qui inspire, qui a remporté le prix Nobel de la paix. Maintenant, il doit se mobiliser et s'assurer que ses propres habitants du Tigré bénéficient des protections dont ils ont besoin et qu'ils méritent.
Anthony Blinken a déclaré qu'il a téléphoné à plusieurs reprises le Premier ministre Abiy et d'autres dirigeants de la région pour essayer de trouver un moyen de mettre fin à la violence contre les civils.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.